Bac FM, il est 18h30. Tout de suite avec mes invités, nous allons voir La Vie en Bleu, direction Infi avec Gianni Villa et Gérard Daguin pour la sortie d'un livre photo qui s'appelle La Vie en Bleu. On en parle tout de suite avec mes invités. Bonjour Gianni Villa.
Bonjour Théo.
Merci de revenir une nouvelle fois dans ce studio. C'est la troisième fois que je vous accueille ici sur Bac FM pour évoquer votre œuvre un petit peu.
Tout à fait, tout à fait.
J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui nous a quittés. Vous êtes bien là encore.
Ah, je suis bien là.
Le dernier coup, c'était pour évoquer l'ensemble de votre œuvre, de votre vie. Là, on va se focaliser sur un projet qu'on avait évoqué à l'époque. C'était un projet. Je me suis replongé dans ce long entretien où on avait évoqué Saint-Étienne, où on avait évoqué pas mal de choses de votre jeunesse, et notamment l'usine d'Infi que vous avez mis en image, finalement, dans votre dernier livre, ouvrage, comment on peut le nommer ?
Oui, livre photographique, c'est ça. C'est un livre photo, comme je suis photographe, donc je fais des livres photos.
Des livres photos, ça s'appelle La Vie en Bleu, sorti le 20 septembre, dans quelques jours maintenant. Ce sera à 17h à la salle du CE Ambroise Croizat à Infi. Ça ne pouvait être que là-bas, de toute façon, la sortie de ce livre.
De par le nom, effectivement, Ambroise Croizat, c'est lui qui est fondateur de la Sécurité sociale, donc ça me paraissait aussi important. C'est aussi un point important, et le lieu pour la remise de ce livre était aussi important, et on a discuté avec Gérard Daguin qui est ici présent.
Vous n'êtes pas venu seul exactement, non. Vous êtes avec Gérard Daguin qui est un ancien bleu d'Infi. Finalement, bonjour, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, je plaisantais hors antenne en disant que vous étiez un petit peu l'historien de cet ouvrage. C'est un petit peu vrai malgré la plaisanterie quand même, parce que vous êtes d'une aide importante et obligatoire finalement à Gianni.
Bah, c'est un bien grand mot, historien, parce que historien, c'est, ça couvre pas mal de choses. J'étais surtout la personne qui était utile pour notamment permettre à Gianni de réaliser son projet, qui était donc de rencontrer des salariés d'Infi en retraite, qui avaient travaillé plusieurs années et qui avaient besoin notamment, au travers de son projet, d'être pris en photo, puisqu'en fait c'est des photos qui ont été donc initiées, et donc c'était nécessaire quand même qu'il ait la possibilité de trouver quelqu'un qui fasse de la recherche de tous ces gens qui sont plus dans l'entreprise,
voilà. Qui était la carte mémoire de cette usine, un petit peu.
Certainement, oui, je pense.
Cet ouvrage, Gianni, est-ce que c'est un devoir de mémoire à la fois d'une commune, d'une région, et puis aussi d'une vie passée, peut-être ?
Alors, cet ouvrage, finalement, moi j'avais une dette envers la commune, envers l'usine et envers aussi mon père. Parce que moi, j'étais destiné à cette vie ouvrière.
C'est un peu un pied de nez à ce que vous deviez devenir.
Oui, ce que je devais devenir. Donc j'avais cette dette en disant, moi, j'ai envie de faire autre chose. Je veux faire autre chose, je veux faire un autre métier. Et finalement, je reviens en disant, voilà, ce métier, c'est photographe. Et voilà à quoi il sert. Et je le prouve par cet ouvrage.
Comment il est né, ce projet ? C'est après plusieurs autres projets passés que vous êtes dit peut-être que je devrais me pencher un petit peu sur cette usine. Il a fallu le temps de grandir, de prendre un petit peu en maturité aussi depuis cette jeunesse passée.
Ah oui, il a fallu grandir, il a fallu prendre en maturité. Il a fallu aussi s'éloigner d'Infi, parce qu'Infi, quand on est jeune, on aime Infi. Et plus on grandit, plus on va vers l'adolescence, je pense, plus on déteste cette ville. Et finalement, après, plus on vieillit, et plus on aime Infi. Enfin, on re-aime un film. On était dans cette... Et moi, j'avais envie, en tant que photographe, c'est vrai que photographe, souvent, on nous dit... photographe, c'est toujours la personne qui va à l'autre bout du monde faire des photos de l'étranger. Et puis finalement, moi, je me suis dit, sur mon terroir, sur mes racines, je pense que je serai, effectivement, il y aura cette force, parce que j'ai la connaissance de la commune, et j'avais envie de revenir faire quelque chose sur ma commune, sur ma ville, et avec les gens que j'ai connus enfant.
Ouais, puis on pourra le retrouver à travers cet ouvrage. Il y a des traces de bout du monde aussi, à travers les visages que vous avez pris en photo. J'ai interviewé un acteur il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Raphaël Thierry, qui dit souvent que ma tête, c'est un paysage. C'est un petit peu vrai aussi, à travers son voyage, à travers ce livre.
Tous les visages sont des paysages et aussi des poèmes à part entière. Hein. C'est à chaque fois, c'est une identité particulière, et chaque chaque personne photographiée va vous raconter une histoire, droit dans les yeux avec les rides.
Est-ce que c'est une nouvelle preuve que vous êtes un éternel nostalgique, ce livre ? Vous le disiez quand on s'est vu pour parler moi de vous il n'y a pas très longtemps, que vous étiez un éternel nostalgique. J'ai réécouté cette interview pour tout vous dire, et c'est la première chose qui m'est venue. C'est en fait c'est la preuve.
Je suis un éternel nostalgique tourné vers l'avenir.
D'accord, bah, voilà. C'est une belle réponse.
Oui.
C'est une belle réponse. Est-ce que cette usine est tournée vers l'avenir justement en retournant la voir, en parlant avec le passé de cette usine aussi ? Est-ce que vous trouvez qu'elle est tournée vers l'avenir ?
Bah, elle est tournée vers l'avenir puisqu'il y a des enfants de gens que j'ai photographiés qui travaillent maintenant dans cette usine. Donc forcément, il y a des choses qui ont changé. Je pense qu'il y a des techniques qui ont changé. Les gens ne sont plus les mêmes, mais elle marche toujours. Donc elle est aussi tournée vers aussi une... Puisqu'elle marche toujours, donc elle fabrique toujours des choses qui sont aussi vouées à vocation d'avenir.
On va se tourner vers le côté plus concret de ce livre. Comment vous l'avez travaillé ? Quelle étape il a fallu ? Combien de temps déjà ça a pris aussi de le mettre en œuvre ?
Ça a pris, là ça a commencé, la première séance photographique qu'on commençait en juin 2023. Et ça s'est terminé en juin 2024. Donc la clé finalement c'était de trouver, comme le font ce qu'on appelle les fixeurs avec les reporters, soit de guerre sur les reporters au niveau du journalisme, il fallait trouver quelqu'un sur le terrain qui puisse moi me aller chercher tous ces anciens bleus pour que je puisse les photographier. Moi j'avais pas cette notion, j'avais quelques noms et puis j'avais quelques... Mais il me fallait vraiment quelqu'un sur le terrain qui puisse convaincre les gens, qui puisse aller les chercher, qui puisse aussi aller chercher les images d'archives. C'est pour ça qu'effectivement un ami à moi à qui j'ai téléphoné, qui est Stéphane Drin, qui est aussi à l'origine de Steve, m'a dit on a commencé à discuter d'un film, puis on a parlé de l'usine et puis il m'a cité aussi le film qui a été fait par Léo Amiot qui s'appelle Les gars de l'usine, que j'ai vu, et je me suis dit, tiens, ce film, pour moi, il me manquait quelque chose. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de travailler sur ce que sont les gars de l'usine et ce que sont ces hommes en bleu.
Et ces bleus d'infi, d'ailleurs, vous le disiez dans le dernier entretien qu'on a eu ensemble, que le bleu, en fait, il n'était pas qu'à l'usine. Il était à infi, tout simplement, parce qu'il rentrait des fois travailler au jardin avec ce bleu qui était celle de la journée de travail. En fait, c'est le bleu d'infi, tout simplement.
Alors, moi, j'en ai qu'un souvenir enfant, et Gérard pourra peut-être me corriger. Il me semble que les gens allaient à l'usine en bleu, ou est-ce qu'ils changeaient
Ça dépend.
À l'époque.
Je pense qu'ils allaient avec leurs vêtements de ville travailler et ils changeaient dans les vestiaires. Voilà.
D'accord.
Donc ils mettaient ce fameux bleu de travail, ce vêtement de travail bleu. Voilà. Et voilà, donc effectivement, l'entreprise avait obligation notamment de donner des bleus de travail de par la loi. Et souvent, y avait des bleus qui étaient moins usagés que d'autres, donc les gens pouvaient s'en servir, ceux qui étaient usagés, pour faire le jardin et pour éventuellement vaquer à leurs occupations quotidiennes en dehors de l'entreprise. Quoi.
Alors c'est intéressant que Jenny vous ait donné la parole. Gérard, vous êtes un ancien bleu, donc vous faites partie de ce livre, vous êtes un des portraits dans cet ouvrage. Quelle image, quel souvenir vous avez, vous, de l'usine ? Quelle histoire vous avez avec cette usine ?
J'ai toujours eu, je suis rentré à l'usine, j'avais 21 ans, en revenant de l'armée. Et donc, comme souvenir, j'avais surtout des notions ou des valeurs de solidarité et de fraternité existaient dans cette entreprise-là.
Vous avez fait toute votre carrière là-bas ?
Toute ma carrière, oui. Voilà, parce que je suis rentré donc en 73 et c'était tout de suite, la période 68 était encore fraîche.
Ouais.
Et il y avait dans cette entreprise vraiment des valeurs qui restait notamment de ce qu'avait été de cette grande grève ouvrière de 1968, qui a perduré pendant 15 à 20 ans. Et après, effectivement, la situation a été compliquée parce que il y a eu toute une philosophie qui a été donc dispensée dans le pays qui faisait que les valeurs de solidarité et de fraternité, fallait surtout les mettre, comme on dit, au rancard.
Oui, bien sûr. Vous êtes intéressé à la suite de cette usine. Jeannie disait que c'était mieux avant. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là ? Moi, je les surnomme les vieux cons, mais il y a des bons vieux cons aussi.
Non, mais je ne suis pas nostalgique. Ni même passéiste de quelque chose qui aurait été mieux avant. Chaque période a ses qualités, a ses défauts. Simplement, des fois, quand on regarde en arrière, effectivement, on se dit il faut qu'on retrouve certaines démarches pour éviter notamment que l'individu soit un petit peu reste dans une démarche individualiste. Parce que c'est ça qui est posé aujourd'hui dans notre société, c'est que les gens on les confine notamment dans une démarche où c'est à eux de régler leurs problèmes, alors qu'en fait on est dans une société et la société elle a quand même des devoirs en vie des hommes.
Voilà. C'était quoi le quotidien d'un bleu d'infi?
Le quotidien, c'était déjà venir travailler hein, dans des conditions d'horaire fixées par l'entreprise. Hein. Il y avait des gens qui faisaient le travail posté.
C'était déjà les 3-8 à l'époque ?
Oui, c'était déjà des... ça a toujours été les 3-8 sur Infi. Hein. L'usine marchait 24 heures sur 24, hormis le week-end, mais c'était déjà les 3-8. Donc les gens avaient notamment... cette façon de se dire, eh bien, de toute façon, moi, le matin, il faut que je vienne travailler à 5 heures. La semaine d'après, il faut que je vienne travailler à 13 heures. Et puis, et puis encore la semaine, 3 semaines après, c'était je viens travailler à 21 heures parce que je fais les 3 postes. Voilà.
Il y avait une vie dans l'usine qui était différente de ce qu'on peut retrouver maintenant. Est-ce que, par exemple, votre quotidien d'avant serait totalement opposé à celui de maintenant, pourrait paraître inconcevable pour un jeune de 21-22 ans qui rentrerait à l'usine?
C'est-à-dire qu'au fil des années, les employeurs ont travaillé notamment à ce que ces questions de fraternité ne soient pas dans l'état d'esprit des ouvriers. Par exemple, aujourd'hui, si on porte pas son casque, si on porte pas ses gants, si on porte pas ses lunettes,
on va le dénoncer.
Ça vaut tout de suite notamment des remontrances qui sont très 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 mal vécues par les salariés, même si on sait que les questions de sécurité sont nécessaires dans une entreprise. Mais poussé à l'extrême, il y a des gens qui vivent mal ça. Il y a un stress un petit peu continu sur ces questions-là.
Est-ce que vous avez une anecdote qui pourrait nous paraître assez, assez folle maintenant dans l'époque où l'on vit de ce que vous avez pu vivre là-bas à l'usine?
L'anecdote, c'est qu'en fin d'année, il y avait toujours notamment des repas fraternels qui se déroulaient notamment dans les ateliers.
Ce qu'on pourrait appeler les repas de fin d'année maintenant, de n'importe quelle entreprise qui vont au restaurant ou des trucs comme
ça. Voilà, et aujourd'hui c'est complètement interdit, banni, parce que voilà, donc, et c'était quelque chose de très enrichissant, parce que chacun amenait un petit peu quelque chose de chez lui, et puis l'entreprise, notamment l'employeur, tolérait ces repas de fin d'année d'une manière conviviale, quoi. Donc,
ça rejoint le fait de perdre cette convivialité, cette fraternité que vous exprimez là depuis le début,
tout à fait. C'était vécu comme quelque chose. Les gens attendaient notamment en fin d'année ce repas de fraternité, etc. Et alors évidemment, on amenait des choses des fois qui étaient interdites, comme par exemple l'alcool, mais interdites d'une manière assez tolérante de temps en temps. C'était pas quelque chose qui était beaucoup plus important qu'une personne qui aujourd'hui se voit interdire, par exemple, de rentrer du vin, quoi. Ouais. Les gens y rentraient pas à cette époque-là pour, comme on dit, s'enivrer. Ils étaient là pour c'était l'alcool à l'époque, c'était quelque chose qui était nécessaire pour le repas, quoi.
Voilà. Ouais, bien sûr. Vous êtes encore en contact avec des personnes qui travaillent actuellement à l'usine?
Je suis encore, oui, en contact, mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'entreprise a un petit peu réussi à faire en sorte que ces anciens n'aient plus de lien avec les nouveaux. Je m'explique, c'est que on a notamment des structures comme le comité inter-entreprise, etc., où les anciens peuvent pratiquer notamment des activités au travers de ça. Mais je trouve que c'est pas suffisamment mis en valeur.
D'accord.
Pour notamment que ces anciens continuent à venir rencontrer, par exemple, ceux qui sont aujourd'hui en activité, etc. Il y a une espèce de fossé qui n'est pas facile à combler. On a des activités pour les actifs et des activités pour les retraités.
Les plus actifs.
Voilà. Et il n'y a pas forcément de lien pour que ces deux populations puissent notamment continuer
à cohabiter.
Voilà, c'est ça.
Ouais, parce qu'en revanche, vous continuez de voir les anciens bleus,
oui, tout à fait.
Votre génération, la classe par
tout
exemple, ou même d'autres générations. Mais
c'est difficile parce que quand on n'est plus en activité, il y a une sorte de repli sur soi. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais le repli sur soi, il est aussi fonction de ce qu'offre notamment l'environnement,
L'environnement
social. Par exemple, un fils, c'est une ville où maintenant il y a 3300 habitants. À l'époque, on était une ville où il y avait plus de 5000 habitants, donc tout le monde se connaissait. Mmh. Et dans l'entreprise, il y avait 80% des gens qui travaillaient à l'entreprise qui habitaient un fils.
Ouais.
Or aujourd'hui, c'est pas le cas. Si on a à peu près 20%, à peine 20% de gens qui travaillent à Infi et qui demeurent à Infi, ça crée une situation un peu surréaliste
où
la ville notamment ne vit plus avec l'entreprise.
Il y a plus cet aspect où l'usine était vraiment le moteur de la ville d'Infi s'éloigne un petit peu maintenant.
Voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est un peu l'aspect de toutes les industries où souvent les industries donc périclitent parce que la volonté industrielle du pays n'est pas notamment de maintenir des industries sur les lieux historiques. On va faire les choses ailleurs, c'est les localisations.
Oui,
donc
c'est
tout ça crée notamment des comportements à l'intérieur même de la société et puis des localités en fait, où les gens se connaissent plus parce que l'usine n'existe plus, l'entreprise n'existe plus, ou alors les rapports ont été carrément distendus. Voilà, c'est ça.
C'est un beau témoignage qu'on a là quand même d'une vie passée, finalement. Est-ce que, à l'intérieur de cet ouvrage, Gianni Villa, il y a justement ces témoignages-là d'un portrait d'anciens bleus? Est-ce qu'il y a aussi des témoignages, des moments de vie passée dans l'usine, comme on peut l'avoir entendu là avec Gérard Daguin?
Tu parles au niveau d'un écrit, au niveau de quelque chose
au niveau d'un écrit?
Non, c'est uniquement des portraits.
Ce sont uniquement des portraits.
La préface de Marc Lambron.
Ça, je voulais y venir.
Mais il n'y a pas d'écrit. C'est uniquement, comme je suis photographe et que mon vocabulaire est l'image, c'est uniquement un livre d'images. Et volontairement, j'ai voulu qu'il n'y ait pas d'écrit sur ce livre.
Mais ce que je pourrais ajouter, c'est que le fait d'avoir fait des séances photos, notamment régulièrement pour ces prises, on a eu des situations assez intéressantes de gens qui à nouveau se retrouver lors d'une séance photo. Par exemple, le samedi matin, Gianni, il faisait venir 7-8 personnes pour la photo. Et là, on a trouvé des gens qui étaient radieux de se retrouver parce qu'ils ne s'étaient pas côtoyés depuis des années ou des mois. Et ça se racontait les histoires de l'entreprise, etc. Ça a été un formidable témoignage, notamment de ces prises de photos où on a eu des gens qui ont été heureux de se retrouver. Voilà.
Au-delà de cette photographie, si on fait abstraction de la photographie, il y a ce lien social aussi. Ça sert aussi à ça, un projet photographique et puis de raconter une histoire photographique. Les gens se sont retrouvés comme ça les samedis et ils se retrouveront encore parce qu'il y a plus de... Je crois qu'il y a plus de 160 personnes qui sont attendues vendredi. Donc ils sont très heureux de se retrouver ensemble et de se redire des choses et de se revoir et de reparler de l'usine. Et c'est aussi cette fonction-là qu'a la photographie.
À travers les anciens bleus d'Infi que vous représentez, mais à travers votre projet aussi que vous venez, pas défendre, mais que vous venez présenter aussi, Gianni, il y aura un peu un avant et un après la vie en bleu à travers ces anciens bleus.
L'après, finalement, j'aime bien dire qu'avec ce livre, avec ce projet, j'espère les rendre éternels. Donc l'après, il est là, c'est-à-dire que là, j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour qu'effectivement, sur cette histoire d'un fils, sur cette histoire de vie ouvrière, on puisse de génération en génération se transmettre le livre et faire en sorte qu'effectivement, cette histoire soit comptée encore dans pas mal d'années sur un fils et sur ces différentes communes.
Alors, je voudrais rajouter quand même, parce que Gianni, il ne va pas jusqu'au bout de sa réflexion, mais c'est peut-être volontaire, c'est que en fait, le projet, il est dimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a la question notamment du livre, mais en plus de ça, on a aussi, enfin, c'est lui qui a avancé cette idée, de dire que ces portraits-là, il faut qu'ils soient dans la ville. Soient dans la ville.
Il laissera un héritage à la ville d'Infi.
Voilà, il faut qu'ils soient dans la ville et qu'ils soient affichés dans la ville. C'est-à-dire que ces portraits-là, l'objectif qu'il m'avait donc annoncé au moment de son projet, c'était de dire, je fais le livre, mais en même temps, ces portraits, Il faut qu'il puisse trôner notamment dans la ville, sur des murs, sur des endroits où les gens puissent voir telle ou telle personne qu'il a connue, etc. etc.
J'allais y venir. Effectivement, l'idée au départ, c'était pas le livre, c'était l'exposition.
D'accord. Au début, c'était l'exposition.
Puis au début, quand on a commencé les premières séances en juin, on avait 10, 15 personnes. Et puis ensuite, effectivement, quand après Gérard, on a commencé à rechercher des gens, on a vite augmenté la totalité des gens photographiés pour arriver à 122. Donc, ce qui est assez important. Et l'idée, la première idée, c'était une exposition en extérieur, dans la ville, sur des portraits qui sont en 100x100, donc des grands portraits, pour effectivement rendre cet hommage et puis pour remettre l'ouvrier finalement dans la ville. Parce qu'il y a deux moments dans la vie de l'ouvrier où il est dans la ville. Il est dans la rue quand il va à l'usine, quand il se rend à son travail. Il est aussi dans la rue quand il est en contestation, quand il est en grève. Et j'avais envie, moi, de refaire finalement, de remettre cet ouvrier dans la rue. Et donc dans cette avenue qui est un film qui s'appelle l'avenue de Jean Jaurès. Mais le projet, ça sera dans un second temps. Parce que pour le moment, nous avons quelques difficultés, avec notamment Aperam et son directeur. Et puis, sur ce projet, je trouve que...
Qui s'oppose à l'idée ou...
C'est pas qu'il s'oppose à l'idée, c'est qu'il ne veut pas entendre parler de l'idée.
D'accord. Voilà. Donc c'est une sorte de refus, ouais, finalement.
C'est une sorte de refus, oui. Mais,
raison ?
Il n'y a pas vraiment raison, sauf que pour lui, c'est quelque chose de passéiste et qu'il ne veut pas, jouer sur le passé.
Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, finalement.
Oui, en fait, c'est vrai que le projet, dans sa totalité, était pour donc rendre mémoire, de la mémoire, notamment ouvrière, sur un fil. Et le fait un petit peu d'avoir une sorte de réticence de la part de l'employeur, hein, de pas vouloir exposer notamment tous ces visages-là, c'est quelque chose que je comprends pas parce que justement c'est quand même eux qui ont fait l'entreprise pendant des années et leur rend hommage, c'est aussi la possibilité de valoriser l'entreprise.
Bah oui, bien sûr, oui, tout à fait.
Et ça, c'est, je pense que c'est peut-être une erreur que fait Aperam, voilà, donc.
Oui, s'ils nous écoutent, hein, ils le comprendront une nouvelle fois. Je voudrais revenir sur le bilan humain de ce projet-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, humainement ?
Bah, ça m'a apporté de la fierté de mettre ces gens en valeur et puis de la fierté par rapport à ma famille. Et puis, puis c'est aussi notre rôle de photographe que de raconter ces histoires et puis de remettre ces gens à la vraie valeur et à la vraie dimension d'où ils doivent être. Dans une commune qui est une commune comme un fille. Donc 122 personnes photographiées, 120 hommes et 2 femmes.
Ça aussi, c'est une preuve historique de...
Non, ça a été finalement sur les 120. On a commencé effectivement par le masculin, parce qu'en production, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient finalement à ce poste. Et puis finalement, après la réflexion, j'ai demandé à Gérard, mais je dis effectivement, il devait bien y avoir certaines femmes en production. On a retrouvé 2 femmes qui étaient en production. Donc ça, c'est une... Voilà, c'était une réflexion et je devais en passer par là, oui, trouver effectivement, se dire s'il y avait des femmes en production, il faut qu'il y ait des femmes dans ce projet, donc 2 femmes sont dans ce projet.
Tout à fait. C'était au départ aussi, c'était une réflexion que je m'étais faite, de dire il faut quand même qu'on regarde à ce que la gente féminine soit aussi mise en valeur. Et trouver des gens, parce qu'à l'époque, dans les années 70-80, il y avait peu de travail féminin sur un fil, existait pratiquement pas, ou très peu sur des aspects de production très local, comme par exemple, il y avait un atelier où il y avait beaucoup de femmes, mais malheureusement, elles n'étaient pas en bleu, elles étaient en blouse. Alors comme le titre, c'était « La vie en bleu », on s'est interrogé. Et puis après, on aurait pu effectivement trouver toutes ces personnes qui travaillaient dans un atelier de femmes, hein, mais bon... Est-ce que le titre aurait été le même? C'est ça.
Donc là, on a vraiment trouvé des femmes qui étaient en production et qui portaient le bleu, ce fameux bleu. Donc elles sont dans le projet, elles sont dans le livre et j'en suis très heureux.
Et elles seront certainement présentes vendredi, c'est le 20 septembre, pour la soirée.
Oui, les deux dames seront là.
Pour la soirée de présentation.
Pour la soirée de présentation du livre.
De la vie en bleu, c'était à 17h à la salle CE Ambroise Croizat d'Infi. Il y aura d'autres choses aussi dans cette soirée. J'ai entendu parler d'un diaporama.
J'ai préparé pour effectivement donner une vue un peu sympathique et puis dynamique sur les 122 personnes photographiées. J'ai préparé un diaporama avec qui dure à peu près 8 minutes. Voilà, qui je pense va leur plaire, avec deux chansons emblématiques, une de Renaud et une de Bernard Lavilliers, Les Mains d'Or et puis Le Bleu pour Renaud, son bleu. Et puis je vais emmener aussi ce que, parce qu'on prépare effectivement maintenant la future exposition, je vais emmener un tirage 100x100 sur Alu Dibon, de notre doyen du projet qui est Louis Conception, qui est né en 1922.
D'accord.
Donc voilà, donc il y aura un tirage pour présenter aux personnes qui seront présentes ce que pourra être effectivement la dimension qu'on va donner. La grandeur des personnages qui pourront être présentés dans les rues d'Infi.
Et ce sera l'occasion de présenter donc ce livre et puis les autres collaborations aussi à travers cet ouvrage. Je pense à la préface de Marc Lambon, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure.
Oui, membre de l'Académie française.
C'était une fierté pour vous qu'il collabore avec vous sur ce projet-là. Bah,
c'est intéressant d'avoir toujours un nom, c'est toujours porteur et puis c'est toujours... et puis sa plume, effectivement, moi je trouve que la préface est assez jolie, donc ça permet de redonner une dimension aussi... au livret et au projet.
Et lors de notre dernier entretien, vous parliez aussi dans ce projet de dessins d'Antoine Panéda.
Il y a deux dessins d'Antoine Panéda
qui sont présents.
Ouais, c'est toujours le cas. Ouais, oui, ouais.
Ces dessins, qu'est-ce qu'ils représentent?
Ils représentent... alors, il y a en dessin, il y a le tréfileur, qui est en deux fois, qui est un peu comme une image, un peu comme une espèce de tampon. C'est une image clé qui est à l'entrée et à la sortie du livre. Et puis, il y a donc... il y a le dessin de l'Atelier des Forges en 1960, qui est en noir et blanc, qui est un dessin au crayon.
Dessin d'Antoine Panéda, voilà. Qui est neversois, d'ailleurs. Ce livre, pour se le procurer, comment c'est possible? Maintenant, il y avait des précommandes qui étaient possibles, fut un temps, si on vous suivait sur les réseaux sociaux, vous l'aviez dit également à l'antenne, on l'avait relayé sur Bac FM. Mais maintenant, comment peut-on se le procurer? Est-ce qu'il sera disponible dans certaines librairies?
Alors, le livre sera disponible, effectivement, le 20 septembre, à la vente, au tarif de 40 euros, et ensuite après le livre il sera disponible en me contactant moi, et puis j'en laisserai une certaine partie peut-être à Gérard, peut-être, on va voir comment on va s'organiser, mais c'est un livre qui a tiré, c'est un tirage à petit exemplaire, c'est 300 exemplaires.
D'accord.
Okay. Donc on a déjà une 150 de vendus.
Donc il en reste la moitié. En vous contactant Gianni Villa sur Facebook par exemple, c'est là
exactement,
où on peut
ou sur mon site internet procurer.
D'ailleurs, est-ce que ça va être mis sur votre site internet? J'ai vu que c'était pas encore.
C'est pas encore, non. Parce que je veux juste, je veux vraiment le mettre, je veux vraiment dévoiler les portraits au dernier moment, c'est-à-dire le 20 septembre, et ça sera mis le 21 septembre. Il y aura certains portraits, puis il y aura le lien pour acheter le livre en direct.
Et ben voilà, on aura l'occasion d'aller également sur votre site internet, giannivilla.fr. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci Théo.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battu par les vagues, rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier. J'voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain à 13h avec un nouvel invité et les infos de la mi-journée. À demain, 13h.